Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 11 décembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en recul de 3%, 90K, un Ethereum autour de 3200 en recul de 4%, et on a tout ce top 10 qui déroule malgré tout pour Solana moins 6, moins 8 pour ADA Cardano, et des moins 5 autour du top 10, top 15, avec du Chainlink, Stellar, Hyperliquid, on a Zcash également en recul, Monero 15e place, $400, toujours stable sur ses appuis pour la monnaie préférée des coins anonymes, moins 9 pour Avalanche, c'est également le cas de Polkadot, on a moins 9 pour Ethena, on continue de s'enfoncer dans le top 50-60 pour constater que c'est à peu près pareil, du moins 5 à moins 8, avec une clôture de ce top 60 sur du Arbitrum, Algorand, Official Trump, Atom Cosmos, VeChain autour de 1 à 1,1 milliard de capitalisation. Sur les infos récentes, donc on était resté la dernière fois sur BlackRock qui demandait un dépôt d'Ether staké en termes d'ETF, Circle qui lance un nouveau stablecoin sur la blockchain Aleo qui pourra permettre notamment d'avoir plus de vie privée par rapport à la demande institutionnelle et avoir un niveau de sécurité et d'opacité quelque part, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais que nécessite le système bancaire malgré tout, puisque nous n'oublions pas que la blockchain est un grand livre ouvert et je suppose que ça ne convient pas à tout le monde. Bob Lucas qui nous disait que le Santa Claus Rally est peut-être lancé, alors pour l'instant nous la crypto, dès qu'on fait un pas en avant, c'est deux pas en arrière, on était venu proche des 95 000 $ ces jours-ci. Donc pour l'instant, ce qu'on peut constater en tout cas, c'est qu'on a Ether qui a récupéré de la force face à BTC. C'est ce que nous mettait en avant Tony The Bull en nous montrant le système Ichimoku et on a eu une percée du nuage sur ce ratio ETH-BTC autour de 0,036. Mais également, on avait Income Sharks qui nous mettait en avant, donc toujours le même ratio avec juste une petite trend qui a été percée et qui représente exactement ce qu'on peut constater aussi sur le système Ichimoku. Donc, qu'est-ce qui à court terme amène un petit peu plus de liquidité sur Ether ? Peut-être le fait qu'on a eu la Fed hier qui a baissé les taux de 0,25 points. Donc on a désormais ça qui est acté pour décembre. On ne devrait plus avoir aucune baisse de taux, bien entendu, pour cette fin d'année 2025. Également la Fed qui annonce qu'elle va acheter pour 40 milliards de bons du Trésor et que ces achats devront commencer à partir du 12 décembre, soit demain. Dans 9 jours, n'oublions pas également, comme le met en avant Income Sharks, qu'on aura le jour des 4 sorcières. Alors c'est triple witching day, quadruple, peu importe. Désormais, je crois qu'ils ont choisi du côté des États-Unis un seul et unique terme. En gros, tous les trimestres, on a le troisième vendredi du mois de la fin du trimestre. Et là, c'est pour l'année entière, puisqu'on va clôturer en décembre énormément de contrats, où on a l'ensemble des options et des futurs qui viennent à expirer. Donc, comme il le disait ici, préparez-vous à beaucoup de volatilité sur cette troisième semaine à venir du mois de décembre. Fineco qui nous met en avant qu'on a eu donc deux petites remarques de Jérôme Powell hier qui ont été glissés discrètement, mais la première est que le taux directeur est désormais tout en haut de la fourchette des estimations du taux neutre et on a en effet un taux qui malgré tout reste haut perché au-dessus des 3,5%, tandis que du côté européen, je crois qu'on est repassé autour de 2 voire légèrement en dessous aujourd'hui. Donc c'est vrai que on se félicite quelque part que la Fed baisse de 0,25 par-ci par-là, mais aujourd'hui on a des taux malgré tout qui restent hauts pour les États-Unis. Et ça n'est pas les taux longs qui sont en train de nous dire le contraire, puisqu'on continue, comme on l'avait vu en fin de dernière émission, d'avoir les bons au trésor américain qui caracolent autour de 4, 4,5, même certains ont l'air de vouloir se rediriger à nouveau autour des 5%. Et donc, comme il le décrit très bien ici dans ce post que je vous invite à lire, on a peut-être une déconnexion désormais entre le pouvoir politique et ce qui est en train de se passer d'un point de vue purement économique. Également, attention, en 2026, avec l'arrivée d'un nouveau président, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est chairman en anglais de la Fed à la place de Jérôme Powell. On sait à quel point Donald Trump veut placer ses billes de ce côté-là pour faire baisser les taux drastiquement, ce qui peut-être pourrait justement semer un vent de panique courant 2026. Je rappelle aussi purement statistiquement que la seconde année de présidence en général est la plus mauvaise d'un point de vue du ratio de ce que peuvent engranger les marchés, notamment le S&P 500, sur à peu près 30 à 50 tant que l'étude avait été menée. Et à contrario, la troisième année a tendance à être la meilleure, donc ça nous amènerait autour de 2027, ce qui de notre côté quand même accrédite vachement la thèse qu'on pourrait être en bear market crypto pour 2026, tout simplement puisqu'on aurait un gros ralentissement du côté du S&P 500 et du marché américain qui aujourd'hui est quand même resté un moteur et un leader, même pour le marché
crypto.
Donc, est-ce qu'on va continuer sur ce motif de se mettre un peu des œillères aux États-Unis et de se dire, comme ils le disent là-bas, run it hot, ce qui veut dire, ben voilà, on va faire chauffer jusqu'à ce que, ben finalement, on soit dans la surchauffe totale. Est-ce que l'IA n'est pas déjà en train de ralentir par rapport à tous ces investissements et tout ce qu'il y avait eu en termes d'économie circulaire? Voilà, c'est toutes ces questions sur lesquelles vont s'ouvrir 2026 finalement et sur lesquelles nous, au niveau de nos tests d'investissement, il faut arriver à répondre tout en prenant en considération que oui, peut-être les marchés ont encore un petit peu de jus, mais sans trop savoir quelle direction ça va prendre, puisqu'on l'avait vu précédemment, on a beaucoup de couverture du côté institutionnel où ils sont couverts des deux côtés et ils attendent d'avoir une véritable directionnalité. Ce qui veut dire aussi que la petite montée en crabe du S&P 500, petit à petit, ils n'y croient pas vraiment, puisque quand on est dans des trends très marqués, bah, petit à petit, on a un désaccord des investisseurs et on a en général plus de personnes qui se positionnent dans un camp que dans l'autre, alors qu'actuellement, c'est tout l'inverse en réalité. Le média de l'investisseur avec Oracle, le géant américain de la tech qui a publié des résultats trimestriels décevants, moins 11,5% à la clôture. Ça a sacrément dévissé pour le coup et on clôturera avec CryptoGoku et le Bhoutan qui va lancer un token souverain adossé à l'or sur Solana. TER sera un token d'or garanti par l'État et il vient d'être émis donc sur Solana. Chaque token représentera de l'or physique détenu. DB Bank devient distributeur exclusif. MatrixDoc fournit l'infrastructure de tokenisation. Le Bhoutan qui aujourd'hui détient 5 984 bitcoins pour un total de 536 millions selon Arcam. On passe à l'analyse technique. On va essayer d'aller assez vite puisque pour l'instant, ça fait 3 semaines qu'on est vraiment sur une volatilité qui oscille très très serrée autour de 3000 milliards. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était autour de janvier 2024 avant qu'on connaisse l'explosion qu'on a eue. À ceci près que cette époque s'y prêtait totalement. On avait le narratif des ETF, les institutionnels sont là. Ça n'avait pas empêché de mars 2024 à ici octobre 2024 de faire un énorme bear flag. Donc pour l'instant, on est dans une cassure de volatilité. Cassure de volatilité que si jamais on est en effet dans ce qui s'est passé, notamment sur le top de 2021, pourrait nous faire une première poussée. Là, on est en train de temporiser au grand maximum. On ira chercher les fameux 100 000 $ sur Bitcoin qui correspondront à 3300 milliards du côté du crypto total. Et derrière, on fera la seconde jambe baissière qui pourrait nous conduire quelque part entre les 2500 milliards et autour des 2000 milliards où se trouve aujourd'hui la moyenne mobile à 200 semaines. On voit que la dominance des stablecoins, pareil, n'a pas dit son dernier mot et se tient très haute sous résistance autour de la moyenne mobile 200 à 0,09 sur ce ratio contre le crypto total. On a Bitcoin à 90K, on a tenté la petite percée proche des 95 000. Voilà, pour l'instant, ça ne passe pas. 3 semaines où littéralement on est cloué autour de cette zone de 90K à plus ou moins 5000. La moyenne mobile 100 est toujours à 84-85 en dessous et la moyenne mobile 50, qui est notre objectif haussier, si jamais on arrive à s'extirper des vendeurs qui, bah pour l'instant, montrent les dents sur la zone, se trouve autour de 100 à 102 000 $. La Bitcoin dominance, pareil, ça fait bien 2 mois qu'on est sur un statu quo et une acceptation autour de 59-60%. ETH pour sa part, 3200. Alors on s'est arrêté un peu précipitamment autour de 3004, ça correspond à toute cette zone de polarité, les mèches de janvier 2025, on avait celle également du test du fameux 10 octobre ici. Donc c'est peut-être une zone assez intéressante, cette médiane de range haut pour ETH, autour de 3400-3450. On a eu un beau rebond, on a eu ETH BTC qui quand même retrouvait un petit peu la santé, autour de 0,035. Ceci étant dit, là on est collé à la moyenne mobile 20, on a la moyenne mobile 100 qui arrive par le nord à 0,038 et cette énorme zone qu'il faut percer autour de 0,04. Donc tout n'est pas fait bien entendu, mais je reste sur ce postulat optimiste là pour le coup. Vous ne pourrez pas dire le contraire que pour ma part, je pense que Ether pourra nous proposer quelque chose de mieux que ce qu'il nous a proposé sur ce cycle de 4 ans, sur les 4 ans à venir. Je pense que c'est tout à fait de l'ordre du possible. Le dollar américain au contact de la moyenne mobile 20 période en hebdomadaire à 98,6. Donc à voir si on trouve de la réaction par là, puisque ben pour l'instant, comme on est dans ce marasme aux États-Unis et que finalement même les petites baisses de taux de 0,25 n'ont pas l'air de trop convenir, on est plutôt voilà, sur des taux et des bons au trésor qui récupèrent de la force et un dollar qui continuerait à s'affaiblir. Les futurs au niveau du Nasdaq et du S&P 500 sont pas fous puisqu'on a moins 1,20 ce matin pour la réouverture de cet après-midi sous les 25 500 points pour le Nasdaq. Peut-être on va revenir à la moyenne mobile 20 dans un premier temps qui se trouve à 24,6. Pour le futur du S&P 500, pareil, on n'est pas vraiment venu tester fait le point haut, en tout cas pas au dollar près, 6959. On est aujourd'hui à 6834. Moyenne mobile 20 autour de 6653. Donc c'est un peu là le statu quo pour le S&P sur cette fin d'année, qui fait que on espère bien entendu que ça va pas donner de nouveau un peu cet appel d'air qu'on avait déjà connu plusieurs fois par le passé. J'espère comme d'habitude que ça tiendra à minima le premier trimestre 2026, mais je sais pas du tout comment va s'ouvrir cette année 2026. Donc très certainement que le mois de janvier nous donnera quand même le tempo pour à minima le premier semestre 2026. C'est quelque chose qu'il faudra savoir observer et surtout en tirer les conséquences assez rapidement vis-à-vis de nos portefeuilles. Le gold qui est toujours perché à 4 200 $ l'once, et tant qu'il y a des banques centrales, notamment comme la Chine, qui en accumulent comme des gorées, eh bien finalement ça continuera sur ce motif, pas plus pas moins. Du côté des minières, on avait vu récemment quelques rebonds, mais qui sont souvent rapidement effacés, notamment MicroStrategy, qui après être venu à 155 $, on avait la 200 juste en dessous à 142, et donc ça a été légèrement front-run, mais pour du long terme, eh bien ça en faisait un point d'entrée autour de 140-150, pas dégueu. Est-ce que c'est le point final par rapport à MSTR? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. De même que, voilà, c'est ce qu'on disait la dernière fois du côté du Discord en discutant entre nous. Je suppose que si le Bitcoin, en tout cas, pouvait nous offrir en 2026 des points bas, plus bas que ceux sur lesquels il travaille actuellement, très certainement que ça viendra se répercuter largement du côté des altcoins. Donc aujourd'hui, peut-être que pour ceux qui font du DCA sur les très très bons dossiers qui se comptent même pas sur les doigts d'une seule main pour le marché crypto, ça peut faire sens de commencer un DCA, notamment puisque c'est du côté de certains gros dossiers altcoins. Je parle essentiellement, voilà, des trucs comme Ethereum, Solana, Chainlink, AAV. Il faut savoir observer un petit peu les leaders de catégorie finalement, et ceux qui sur ce cycle ne se sont pas laissés mourir surtout. Mais toujours est-il, voilà, est-ce que c'est le moment opportun pour attaquer un DCA hors Bitcoin? C'est là où ça reste quand même assez complexe à court terme de pouvoir répondre à ça avec pas certitude, parce qu'on n'aura jamais des certitudes sur les marchés, mais de se dire, bah, par exemple AAV qui était venu mécher récemment autour de 150 $, on sait que pour du long terme c'est pas dégueulasse, on a la 200 qui est en dessous autour de 135, et on avait eu la mèche de non-liquidité du côté de Binance qui était venu autour de 82. Donc il ne faut pas minimiser le fait qu'on peut perdre énormément en bear market sur les alts et que ça peut baisser bien au-delà de ce qu'on aurait pu s'imaginer, mais tout en ayant en tête que comme ce cycle ne s'est pas prêté à avoir des alts qui nous ont fait de belles performances, on n'avait pas forcément la liquidité alignée, on n'avait pas les bons narratifs, et finalement c'est Bitcoin qui a fait aussi le trou noir en simultané de l'IA, donc c'était exogène au marché crypto, qui a attiré absolument toute la liquidité disponible un peu flottante comme ça à tout ce qui était assimilé à de la tech. Et aujourd'hui, la plupart du temps, malheureusement, le marché des crypto-monnaies est encore assimilé à la tech et donc à quelque chose d'excessivement risqué. On n'est pas encore malheureusement dans ce truc de la réserve de valeur. Bitcoin à lui seul le devient petit à petit finalement, et on a vu des comportements avoir parfois un peu une similarité vis-à-vis du gold, mais quand on observe les marchés dans leur intégralité, aujourd'hui la seule et unique réserve de valeur qui vaille, c'est le gold, le métal, et pas forcément le BTC. Donc il faudra encore beaucoup de temps pour que peut-être ça soit pleinement et totalement accepté, et notamment quand on met à coup de 1-3% dans les grands portefeuilles de gestion et de gérants de Bitcoin pour du long terme, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que ben, si l'hebdomadaire est plutôt en train d'essayer de poser les choses, on a le mensuel qui a croisé bearish au niveau du momentum MACD, on a un RSI mensuel qui est autour de 57, les deux derniers bear market, on était venu à 43, 44, et le tout dernier donc de ce cycle en 2022, on est venu à 40, donc ça peut faire encore assez mal, et ce assez mal, ben, quelque part, il se représente pour moi en tout cas. Je pense que les institutionnels seront quand même assez promptes à payer le marché si on revenait sur ces zones, autour de 50, 55 000, moyenne mobile à 50 mois et moyenne mobile à 200 semaines. Donc tout ce qui se passe à plus ou moins 5-10 000 $ autour des 50 000, pour ma part, m'intéressera bien entendu pour payer au long terme. Les expérimentés en analyse technique attendront bien entendu sur cette zone, si un jour on y revient, d'avoir tous les signaux où on a des divergences, où on a le MACD qui petit à petit était en train de se retourner, le RSI qui sur les unités de temps journalières et hebdomadaires est en train de nous former potentiellement un double creux. Voilà, c'est des validations qu'on peut se permettre dans ces moments-là, comme à l'époque ici autour des 15 000, d'attendre entre guillemets. Mais il y aura aussi des moments clés, des moments charnières où, comme on vous l'a dit, quand on était au-dessus de 100 000 et a fortiori quand on était à 125, quand bien même vous visiez les 130, 140, 150, le ratio risque-récompense n'était plus en votre faveur. Contrairement à cette époque ici où autour de 15 000, bien entendu, quand bien même on pensait qu'on pouvait aller à 10, 11, 12, 13, peu importe, eh bien le ratio risque-récompense de revenir à l'ancien point haut qui se trouvait à 69, 70 000 était tout à fait en notre faveur. Et c'est exactement cette asymétrie de risque que l'on veut chercher, que l'on veut avoir. C'est un peu un edge sur le marché finalement, de se dire ok, si je rentre à 50 000, si ça se gâte, ça peut descendre peut-être aller à 40 000 si Michael Saylor vend des bitcoins, et si ça remonte, eh bien je viserai dans un premier temps les 100, 125 000, pourquoi pas les 150, les 200 000 lors du prochain cycle haussier crypto. Ce qui là, vous voyez en termes de projection, vous posez 50 000 sur la table, vous risquez de perdre 10 000. Je vous fais des comptes ronds comme d'habitude, c'est pas pour dire que c'est exactement ce qui risque de se passer, mais c'est pour vous donner la réflexion qu'il y a derrière. Et de mes 50 000, j'espère en retirer 50 000 de positifs, 75 000, 100 000, 150 000. Vous comprenez à peu près comment ça fonctionne. Donc là, on est tout à fait dans un risque ratio qui est hautement en notre faveur. J'espère que cette émission vous aura plu. C'était pas prévu non plus aujourd'hui. Je fais comme ça, comme les infos viennent et comme l'envie aussi vient. On se retrouvera très certainement samedi pour faire le petit débrief de cette semaine. S'il ne se passe pas plus d'ici là et qu'on est toujours cloisonné autour de plus ou moins 90K sur Bitcoin, eh bien, la prochaine émission ne sera que lundi prochain. On prend un petit peu de recul, on pose son plan et les bases pour 2026 à 2030 et vous verrez que ça se passera excessivement bien pour la suite. Très bonne journée et à plus. Ciao, ciao.